Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Salut, ici Julie et je suis ravie d'accueillir Marion, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Marion Botanical. Enseignante le jour, passionnée de plantes vertes le reste du temps, Marion partage depuis longtemps ses conseils pour entretenir sa petite jungle intérieure. On a été lui demander tout ce qu'il fallait faire au printemps avec nos plantes préférées de la maison. C'est parti! Salut Marion, merci d'être là aujourd'hui dans cet épisode de La Voie Verte. On va parler avec toi des plantes vertes et de tout ce qu'il faut faire avec l'arrivée du printemps. Est-ce que tu peux peut-être te présenter d'abord pour ceux qui ne te connaîtraient pas?
Bien sûr, et ben déjà merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être sur le podcast et puis d'autant plus que j'adore le magazine éponyme. Donc moi je suis Marion, j'ai 33 ans, je suis enseignante à l'école primaire et également passionnée de ce qu'on peut appeler maintenant jardinage urbain, c'est-à-dire que voilà, j'habite en appartement en centre-ville, j'ai pas mal de plantes d'intérieur et également un mini balcon depuis plusieurs années. Et c'est dans ce cadre que je partage sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, donc sur Instagram et sur YouTube depuis 3 ans. Et cette année, j'ai publié mon premier livre aux éditions Rustica qui s'appelle « Végétaliser votre intérieur » avec moi, donc Marion Botanical. Et puis, je rajoute aussi que je suis la maman d'un petit Louis de 18 mois et que c'est mon travail à temps plein en ce moment.
Ouais, oui, c'est un super travail. On a une petite question. Est-ce que tu te souviens de ta première plante verte d'intérieur? Parce que quand tu dis que tu en as pas mal, on va voir que tu en as vraiment pas mal chez toi.
Oui, alors ma toute première, oui, je l'ai encore, c'est un spatifilum, donc qu'on appelle aussi fleur de lune. Je l'avais acheté quand j'étais lycéenne dans un grand magasin d'ameublement suédois. Et voilà, c'est vraiment une plante hyper simple, donc je l'ai encore. Et c'est vraiment elle qui, je pense, m'a fait démarrer ma passion. Parce que je te dirais bien que voilà, je jardine depuis toute petite avec mes grands-parents. Ce n'est pas du tout le cas, on est tous des urbains, vraiment urbains lyonnais, Vienne, pour certaines parties de ma famille. Donc ça a vraiment démarré là, je dirais au lycée.
Ouais, c'est chouette de l'avoir regardé.
Ouais, dans ma salle de classe pendant plusieurs années, et puis là, chez une collègue en ce moment.
Du coup, tu as une grande collection maintenant. On vous conseille d'aller voir ta chaîne YouTube. Du coup, tu en montres beaucoup. Tu fais même des plantes tours, il me semble, où on voit vraiment toutes tes plantes. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour rapide, même si je sais que ça va être compliqué, mais voilà, des différentes variétés que tu as. Tu as d'ailleurs plein de variétés différentes de la même famille de plantes.
Oui.
C'est hyper intéressant.
Oui, alors le gros de ma collection, ce sont des pothos. J'en parle pas mal voilà, sur mes plateformes. C'est une plante que j'adore vraiment. J'ai à peu près tous les pothos que l'on trouve facilement dans le commerce, puisque on va dire que moi, je me concentre vraiment sur des plantes qui sont voilà, assez simples d'entretien. Pas à un prix exorbitant, voilà, c'est pas trop mon truc, parce que voilà, vraiment chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que c'est plutôt mon truc à moi, c'est voilà, des plantes assez accessibles, des plantes qui sont assez gratifiantes, assez faciles d'accès, donc tout ce qui est Monstera, donc autant la Deliciosa que tout le monde adore, je pense que c'est l'une de mes premières avec mes pothos, les Adansonii, les Standeliana, etc., qu'on trouve de plus en plus maintenant. Pas mal de philodendrons, assez facile d'entretien, et aussi pas mal de ficus, et puis alors vraiment toutes les plantes que l'on trouve facilement, les pileas et toutes les variegations qu'on trouve maintenant, le spatifilum, j'en parlais, j'aime beaucoup cette plante qui est vraiment un peu, c'est un peu comme le pothos, il y a quelques années c'était vraiment plante de grand-mère, et puis en fait moi je les adore, et puis un petit bar à alocasia avec lesquels ça se passe plutôt bien, mais parce que j'ai des alocasias assez faciles, on va dire.
Du coup, le printemps est arrivé, ça y est, on enregistre cet épisode, on a commencé le printemps, et d'ailleurs, il a fait très beau. Est-ce que c'est la bonne période pour accueillir une nouvelle plante, ou justement peut-être pour débuter, ceux qui n'en ont pas du tout, et qui voudraient acheter leur première plante verte d'intérieur?
Oui, tout à fait, c'est une belle période. Déjà, c'est une période où, quand on va acheter sa plante, on prend moins de risques dans le transport. J'entends par là, quand on achète une plante en plein hiver, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si on rentre en bus ou voilà, on laisse les plantes à l'extérieur ou dans la voiture, les plantes peuvent prendre froid. Puis on arrive chez nous et puis après, une petite semaine après, elles meurent, alors que ce n'est pas du tout de notre faute. Simplement, on amène chez nous des plantes tropicales qui ne survivraient pas en dessous de 10-12 degrés. C'est pour ça qu'elles se plaisent chez nous. On va dire qu'il fait à peu près une moyenne de 18-19 à l'année. À moins que vous surchauffiez chez vous, mais... Voilà, donc c'est une belle période, c'est une période en plus où les plantes sont en pousse active, pour la plupart elles se réveillent, donc quand on débute, voir une plante qui ne stagne pas chez soi et qui se plaît, c'est hyper encourageant. Il y a le grand côté, on en parle tout le temps, hein, le grand côté psychologique du jardinage et donc le bien-être que ça peut procurer, mais on oublie beaucoup souvent les débutants, parce que quand on a des plantes depuis plusieurs années, on oublie un peu les débutants. Pour nous, c'est inné, c'est acquis. Non, plutôt c'est acquis, pardon. On a des plantes chez soi, elles se plaisent bien. Mais quand on débute, qu'on se répète, qu'on n'a pas la main verte, etc., et qu'on n'a personne pour vous aider, un peu comme moi, j'en parlais, voilà, ma famille n'est pas du tout plante ni jardinage. On a eu une fois un jardin, je pense, on a dû planter, à mon avis, des haricots. C'est le seul souvenir que j'ai. Les débutants, au printemps, les plantes s'épanouissent chez nous. Donc, c'est plutôt encourageant et ça donne envie de continuer et de s'y intéresser, du coup. Quand je dis s'y intéresser, un truc tout bête, hein, mais apprendre le nom de ses plantes, déjà quand on tout débute, c'est la base et tout le monde ne le fait pas. Parce que quand on a un problème, c'est plus facile de chercher un problème associé à une plante en particulier. Donc c'est une bonne période pour en accueillir et pour débuter aussi. On trouve aussi beaucoup de plantes à tous les prix. Que ce soit des fleuristes de quartier ou même des chaînes de grande distribution quand on a un plus petit budget, parce que c'est la période où, bien sûr, les vendeurs en proposent davantage.
Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des conseils d'ailleurs pour bien la choisir? Parce que justement, comme tu le dis, c'est la période où il y en a beaucoup, et peut-être que quelqu'un qui débute ne va pas forcément savoir est-ce qu'il faut prendre des petites, des grandes, qu'est-ce qu'il faut regarder pour être sûr de ramener la bonne plante chez soi?
Oui. Alors ça, c'est rigolo, j'ai toute une section dans mon livre parce que c'est un truc qui me paraît important. Pour éviter soit de gaspiller son argent, soit de se décourager. La première chose à faire, c'est de demander à un vendeur, quel qu'il soit, et si c'est une grande distribution, de regarder au moins l'étiquette, le nom de la plante. Si on a un smartphone, ça prend 2 secondes de taper le nom de la plante et de voir à peu près quel est l'entretien. Si on se rend compte qu'on a acheté une plante qui aime énormément de luminosité, une plante à variegation par exemple, qui coûte un peu cher mais qui nous fait très envie, imaginons qu'on a envie de se faire plaisir. Si on est plein nord toute l'année et qu'on a une façade, on est en ville et qu'on a une façade en face de nous et on n'a quasiment pas de lumière, ça risque peut-être d'être un souci ou en tout cas, elle ne va peut-être pas s'épanouir autant qu'elle pourrait. Donc ça, c'est une première chose à faire, je pense, quand on est en train d'acheter une plante, c'est d'apprendre son nom et un tout petit peu ses besoins. Ensuite, bien vérifier si elle n'a pas des nuisibles, parce que ça peut tout à fait être le cas. Alors, quand on est débutant, il est difficile parfois de savoir si c'est un nuisible. Si, par exemple, une plante est un peu abîmée, elle a quelques taches. C'est difficile de savoir si c'est une plante qui a pris la pluie ou des traitements qui a un peu abîmé la plante, l'engrais ou l'antiparasitaire dans les serres. Ça, c'est pas grave, mais quand on débute, parfois, c'est difficile. Donc, vérifie qu'elle soit bien clean. Et vérifier si elle n'a pas des nuisibles. Parfois, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à savoir si c'est un nuisible ou autre chose. Donc, bien la vérifier, parce qu'en plus, qu'on ait une belle collection ou pas beaucoup de plantes, ramener un nuisible chez soi, c'est un peu compliqué. Ça peut soit abîmer sa collection, soit nous décourager tout simplement, parce que quand on débute, on ne sait pas trop quoi faire. On a même des peurs parfois qui ne sont pas fondées. Ah, tiens, ça va aller dans mes meubles, dans mes vêtements, sur mes animaux, pas du tout. Mais bon, quand on débute. Hein, là, il faut vraiment repartir de zéro, sans prétention, avec beaucoup d'humilité. Il faut aussi y réfléchir. Et puis, je me suis déjà perdue dans la question. Alors, ce qui concerne les petites ou les grandes plantes, je dirais que c'est pareil, ça dépend. Mais... les plus petites plantes, par contre, sont quand même parfois plus fragiles. Le système racinaire est parfois un peu moins bien installé. Et si on décide de la mettre dans un endroit, je ne sais pas, par exemple, un endroit où il y a un petit peu moins de lumière parce qu'on a envie de la poser à cet endroit-là, peut-être partir sur une plante moyenne.
D'accord. Et du coup, on a acheté notre nouvelle plante verte. On la ramène chez soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la laisser tranquille ou justement, est-ce qu'il faut s'en occuper? Puis où est-ce qu'on la place au début?
Là aussi, ça dépend, ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire que vous avez des plantes qui vont s'adapter à n'importe quel endroit chez vous, des plantes assez faciles, et d'autres qui vont être un petit peu casse-pieds. Je pense aux alocasias, par exemple, qui n'aiment pas trop être dérangées. Donc à ce moment-là, quand on l'achète, il faut déjà penser, et ça finalement, ça rejoint la question précédente, en jardinerie, où est-ce que je vais la placer ? C'est pour quel endroit ? Parce que parfois, on achète une plante pour un endroit précis, alors qu'en réalité, il faut chercher l'endroit après, celui qui lui plaira le plus. Bon, quand on revient avec une plante assez facile, voilà, on choisit un endroit, il y a suffisamment de lumière, pas de soleil direct parce qu'on ne veut pas prendre de risque de brûlure, même s'il y a certaines plantes qui s'adaptent et qui s'acclimatent. Mais voilà, au début, on ne veut pas trop prendre ce risque-là. Et puis, certaines plantes, donc j'en parlais, les alocasias n'aiment pas trop être bougées, donc on essaie de choisir son emplacement et de ne pas trop la bouger. Une plante qui arrive à la maison, parfois, elle s'étiole un petit peu ou elle se dégarnit un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer que dans une serre d'exploitation, on a une humidité 100% parfois, impeccable, donc plantes tropicales dites plantes humides, à part si on achète des plantes grasses ou des plantes désertiques. Ensuite, on a des sources de lumière qui viennent de tous les côtés pour que la plante soit magnifique et se développe de façon homogène et donne envie d'être achetée le jour de l'achat en jardinerie. Quand elle arrive chez nous, elle reçoit peut-être la lumière que d'un seul côté, peut-être qu'au pied de la plante, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'on ne l'a pas surélevée, parce qu'on n'a pas de grande serre ou de grande baie vitrée. Elle va s'adapter à chez nous. Déjà, il faut être reconnaissant de ça. Donc, si elle se dégarnit un petit peu au début, on ne panique pas tout de suite, ce n'est pas grave. Et je pense notamment aux alocasias, on ne commence pas à les déplacer partout dans la maison, parce que là, à chaque fois, il va falloir qu'elle se réhabitue au nouvel endroit, et du coup, à chaque fois, elle va vous perdre une feuille. Ensuite, pour ce qui est du rempotage, et ben là aussi, ça dépend. Si vous l'avez acheté dans une jardinerie spécialisée, je pense à ça, parce que maintenant, c'est là où je vais de temps en temps dans mon quartier. Parfois, les plantes ont été rempotées dans un super substrat. Elles vont très bien. Il n'y a pas besoin de les embêter. Parfois, c'est une plante qui a grandi au maximum de ses capacités de son pot. Et du coup, les racines dépassent. Et à ce moment-là, on peut faire le rempotage sans aucun souci au printemps. Voilà, il n'y a pas vraiment de risque. J'en parle souvent. Des fois, en hiver, il faut éviter. Mais au printemps, si vous voyez qu'une plante qui ne grandit pas pendant toute la période du printemps, c'est peut-être une plante qui n'a pas assez de place. Quand les racines ont pris tout l'espace, il y a de moins en moins de terreau. Et le terreau, c'est là où les racines vont puiser l'eau et les nutriments, puisque c'est une culture en pot. Donc, à part pour les plantes qui peuvent survivre là, dans un milieu un petit peu aérien, sinon, voilà, ils ont besoin de terreau. Donc, on regarde. Après, on essaie de ne pas rempoter dans un pot trop, trop grand. Les racines risquent de se perdre et du coup, la plante va passer plus de temps à coloniser le pot qu'à développer son feuillage, ce qui est déjà dommage pour nous et puis pour elle aussi, puisque le feuillage sert à la photosynthèse. Et voilà. Après, c'est bien de regarder. Parfois, les racines dépassent par le bas, mais en fait, elles n'ont pas colonisé tout le pot. Et parfois, il s'agit simplement de réorganiser la plante dans son terreau, voire de changer le terreau s'il est un peu vieux. Pas forcément de passer toujours sur un pot plus grand.
Ok, donc on peut la sortir, la dépoter et peut-être arranger un peu ses racines et renouveler le substrat, quoi.
Tout à fait. Si c'est pas nécessaire de la passer dans un pot plus grand ou qu'on n'a pas la place, je pense à ça parce que moi j'ai des étagères au-dessus de mon canapé où j'ai des plaquettes en fait assez fines. Et ce que je fais régulièrement, c'est que je change le terreau. Mais ça, je crois qu'on va en parler un petit peu après. Je change le terreau s'il y a besoin. J'extrais un petit morceau de plante s'il y a besoin. Mais il n'y a pas forcément tout le temps besoin de passer dans un plus grand pot.
Ok. Et oui, parce que justement, il y en a des fois qui ont des très grands pots. Moi j'ai une très, très grande Diefenbachia, justement, que je ne rempote plus parce que je ne peux pas. Elle a un pot déjà qui est très, très grand. Comment on fait pour quand même lui apporter un terreau un peu nouveau ?
Alors, soit on resurface, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ou qu'on l'a déjà rempoté à l'été ou à l'automne dernier. Donc, on va gratter sur la surface bien 2-3 cm, enlever ce qu'on peut sans abîmer forcément les racines et lui donner un terreau nouveau. Non seulement c'est un terreau qui souvent est riche en nutriments et en engrais quand il est neuf, et en plus c'est un terreau qui va boire l'eau, parce que parfois le terreau est vraiment très ancien et il ne retient même plus l'eau. Une éponge un petit peu trop vieille finalement qui retiendrait plus l'eau. À ce moment-là, le resurfaçage peut être suffisant, mais parfois ce qui est bien, c'est de changer le terreau. Et si vraiment la plante a colonisé tout le pot, c'est trop compliqué, on peut la diviser simplement pour offrir une nouvelle plante à un ami ou une amie. Surtout que souvent, c'est des plantes qui ont envie, soit font des rejets et on les voit à la surface, soit crèvent d'envie de faire des rejets, mais elles n'ont pas la place. Donc voilà, ça peut être une solution, ça aussi.
Ok, c'est super. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Tu vois, moi, elle a deux bébés, ma Diefenbachia. Je vais peut-être tenter de les séparer.
ça peut être l'occasion pour elle de développer ses bébés, parce que si elle n'avait pas assez de place, elle n'avait peut-être pas du coup l'énergie pour le faire.
Et est-ce que tu as des conseils justement pour les pots? Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué pour les débutants, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de pots différents maintenant en jardinerie, des cache-pots, des pots voilà, en plastique classique avec des trous, des pots suspendus. Est-ce qu'il faut choisir certains pots en particulier?
Oui. Alors, quand on débute, il faut se poser deux questions. Est-ce qu'on a plutôt la main lourde ou alors, ou est-ce qu'on sait qu'on ne va pas penser à arroser régulièrement ces plantes? Dans ces cas-là, si on ne les arrose pas régulièrement, on peut simplement rempoter son pot dans un autre petit pot en plastique. Quand on achète quelques plantes, on commence à avoir une petite collection, puisque c'est comme ça que souvent les plantes sont vendues, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et du coup, on peut les rempoter dans un autre pot un petit peu plus gros. Et à ce moment-là, on peut se faire plaisir pour les mettre ensuite dans un cache-pot. Non seulement la plante dans un pot en plastique va garder l'humidité un petit peu plus longtemps dans la motte, si on oublie trop de les arroser. Et puis en plus, ça va permettre d'aller les doucher, leur donner un petit coup sous la douche, parce que c'est un peu moins lourd que de se trimballer un grand pot, par exemple, en terre cuite. Ça peut être une solution. Et à chaque fois, on adapte voilà, le petit pot en plastique ou bien le cache-pot associé. On peut se faire plaisir en plus dans la déco. Si on a la main trop lourde, un pot en terre cuite, c'est très bien. Parce que la terre cuite, c'est poreux, ça va s'évaporer, la motte va sécher plus rapidement. Et voilà, simplement, un petit peu plus de manutention pour l'amener jusqu'à la douche. À chaque fois, par contre, un moyen de drainage. C'est-à-dire que si vous avez gardé dans un petit pot en plastique, il y a des trous, vous laissez bien drainer dans la douche avant de remettre dans le cache-pot pour pas que ça stagne. Et la terre cuite, c'est pareil, il y a souvent un petit un trou, même si on place une coupelle en dessous. Il faut que l'eau puisse s'écouler, sinon ça fait pourrir les racines qui sont noyées et du coup n'ont pas accès à l'oxygène.
On va parler d'arrosage justement, parce que c'est souvent le problème des débutants et pas que, parce que trouver le bon arrosage, le bon rythme, notamment parce qu'on sort de l'hiver où on a souvent réduit l'arrosage, voire des fois arrêté pour certains types de plantes depuis très longtemps. Est-ce qu'il faut accompagner les plantes du coup au printemps, réaugmenter très vite, plutôt doucement? Et qu'est-ce que tu conseilles quoi, comme arrosage, toi, plutôt tu nous parles de la douche, est-ce qu'il y a d'autres façons d'arroser?
Là aussi, tout dépend. Ça dépend du printemps. Là, par exemple, cette semaine, il fait très bon, il a fait très chaud ce week-end. Suivant aussi comment vous êtes orienté, si vous êtes plein sud, plein ouest, vous allez peut-être très rapidement avoir besoin d'augmenter la fréquence. Je parle bien de fréquence et pas de quantité d'arrosage, puisque quand on arrose, que ce soit en hiver ou en automne ou en été, il faut arroser de la même manière. On mouille toute la motte de façon homogène. Donc moi, je privilégie souvent la douche. Mais on peut bassiner certaines plantes, par exemple, qui n'aiment pas avoir le feuillage mouillé. Je pense à un bégonia, par exemple, un bégonia maculata qui s'est beaucoup vendu à un moment donné. En même temps, c'est une plante qui est très belle et j'ai souvent des débutants qui me demandent son entretien. C'est une plante qui n'aime pas avoir de l'eau sur ses feuilles, qui fait rapidement des petits champignons. Et du coup, si on veut éviter ça, on peut la bassiner. Mais quand on bassine une plante, c'est-à-dire qu'on met le bas du pot dans l'eau, on fait ça une bonne heure jusqu'à ce que le terreau boive bien. Et ensuite, on enlève la coupelle absolument, parce que là aussi, on ne veut pas qu'il y ait des racines qui pourrissent. Donc voilà, ça dépend. S'il fait très chaud au début du printemps, vous allez peut-être rapidement avoir besoin de reprendre l'arrosage plus fréquemment. Je crois que dans une semaine, il fait un peu moins beau. On aura peut-être un petit répit. Si vous avez des plantes qui vous disent qu'on les arrose, c'est quand même plus facile, surtout quand on débute. Je pense aux pothos, aux philodendrons qui s'enroulent sur eux-mêmes. Je pense à des plantes, même Monstera aussi, qui s'enroulent. Là, ça peut nous. On va voir que rapidement, plus fréquemment, ça va être le cas puisque les températures augmentent. Donc ça, c'est une bonne façon de savoir. Pour l'arrosage, oui, on attend bien que le pot soit sec. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous plantez une petite baguette dans le terreau si c'est un gros pot, un peu comme un fondant au chocolat finalement. Si ça ressort sec, c'est que c'est tout sec. Là aussi, il faut connaître les besoins de ces plantes. Il y a des plantes qui préfèrent que le terreau soit bien, 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 bien sec. Et il y en a d'autres qui préféreront être sec à la moitié du terreau, on va dire. Je dis souvent moitié parce que... Alors ça, c'est vraiment un truc qui est propre à ma chaîne, c'est qu'il faut que ça soit ludique et simple. Donc je simplifie un petit peu. Donc ça, c'est une bonne solution. Il faut apprendre aussi à sous-peser ses pots. Une fois que la plante est mouillée, que la motte est bien saturée en eau, on sous-pèse pour voir à peu près le poids qu'elle doit faire lorsqu'elle est mouillée. Et puis, on se rend compte rapidement, au bout d'une semaine, que le pot est très léger et que du coup, il y a besoin d'être arrosé. Il faut se familiariser un peu avec ces plantes, mais c'est un bel exercice.
Et on va parler d'un tout petit peu d'humidité. Alors, c'est assez compliqué. On en a déjà parlé un peu, nous, dans le magazine. parce qu'évidemment, elles ont besoin d'eau et d'arrosage, mais c'est, comme tu le disais, des plantes tropicales pour la majorité, qui ont besoin d'un fort taux d'humidité. Et souvent, à la sortie de l'hiver, des fois, on en a perdu certaines, en tout cas certaines font un peu la tête, parce que le chauffage, le poêle ou la cheminée ou choses comme ça, voilà, ont baissé un peu le taux d'humidité. Est-ce que tu as des conseils, toi, des astuces assez faciles pour augmenter un peu le taux d'humidité autour de nos plantes?
Oui, alors c'est vrai que l'hiver chez nous est plutôt sec à cause des chauffages, mais dans la nature aussi, c'est pour ça que les feuilles perdent leur feuillage, pour garder en réserve le sucre et l'eau, puisque c'est une surface d'évaporation potentielle, donc autant l'enlever. Les sapins gardent leurs aiguilles, mais les aiguilles sont toutes fines, la surface d'évaporation finalement est assez moindre, donc eux, ils gardent leur feuillage l'hiver. Mais en intérieur, c'est encore pire, on est d'accord, près du chauffage, vraiment, les intérieurs sont secs, quoique ça dépend où est-ce qu'on vit, mais oui, c'est compliqué. L'été aussi est une saison sèche, mais c'est vrai que le printemps et l'automne sont pas tellement des saisons sèches, sauf à l'intérieur, si on garde le chauffage ou qu'on est derrière une baie vitrée sud-ouest. Alors, quand on commence à avoir une belle collection, ça peut être intéressant d'investir dans un bon humidificateur. Il y a une vraie différence en termes d'intérieur, proche de l'humidificateur, pardon. Parce qu'à moins d'avoir une petite serre ou une petite vitrine, plus on s'éloigne de l'humidificateur, plus le taux d'humidité retombe. Donc finalement, il faut grouper ses plantes. Et c'est une astuce qui est aussi intéressante, même quand on n'a pas d'humidificateur, de regrouper ses plantes, ça crée un petit peu un microclimat à un endroit donné. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est de placer des coupelles de billes d'argile sous ses pots, des coupelles plus larges, avec, je dis des billes d'argile, mais ça peut être des graviers qu'on a nettoyés, hein, c'est d'ailleurs sûrement plus joli, et un petit liseré d'eau qui ne toucherait pas par contre le pot ni les racines. La différence n'est pas dingue comme un humidificateur, mais ça peut faire du bien à une plante qui va mal. Voilà, vaporiser le feuillage, ça peut être intéressant si on est assidu, si on fait ça matin et soir par exemple. Là aussi, ça peut être un petit rituel, un truc un petit peu thérapeutique. Si on fait ça que de temps en temps, c'est vraiment pas intéressant. Mais si on le fait régulièrement, ça peut être intéressant pour pas mal de plantes.
Et si on a eu un gros souci cet hiver, il y en a certains qui ont des plantes à la sortie de l'hiver qui ont quand même un peu souffert. Est-ce qu'il y a un petit tips pour essayer de les faire revivre facilement et rapidement?
Alors là, il faut absolument s'intéresser aux nuisibles. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'hiver, donc là on parle d'humidité, mais ce qui se passe surtout, c'est qu'à la sortie de ces saisons sèches, les nuisibles sont en recrudescence parce qu'ils ont profité de la sécheresse. Une plante qui a suffisamment d'humidité, qui est en bonne forme, elle est moins attaquée par un nuisible que une plante qui est en souffrance parce qu'elle a vraiment, comme tu disais, subi cette saison sèche. Donc il faut absolument aller regarder entre les feuilles, derrière les feuilles, à la naissance des tiges. Parce que souvent, c'est là d'où vient le problème. En tout cas, moi, la plupart des messages que je reçois en message privé, ça vient de là. Et certains nuisibles sont difficiles à voir. Donc absolument aller regarder. Dans le doute, aller traiter. On peut traiter une plante au savon noir, même en prévention. Ça lui fait pas de mal. C'est ce qu'ils font dans les serres. Hein. Alors, c'est pas du savon noir, on est d'accord. Voilà, au moins tout le monde y passe et c'est réglé. Ça peut être un bon souci. Ça peut aussi permettre à la plante, du coup, au printemps, d'avoir ça en moins à gérer pour redémarrer sa croissance. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose à faire. Certaines plantes, ça vaut le coup de les tailler.
Ouais, ce que je voulais te dire, est-ce qu'il faut couper un peu? Nous, parfois, on a des faux de plantes où il y a vraiment des feuilles qui sont devenues toutes jaunes, toutes sèches. On dit mais il faut couper, je pense que les gens ont peur de couper beaucoup leurs plantes.
Alors une feuille jaune qui est vraiment jaunie, qui s'est abîmée, elle ne redeviendra pas verte, donc en l'occurrence elle ne sert à rien. Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent plutôt, mais c'est ce qui est intéressant dans le jardinage, c'est que chacun fait un peu comme il veut et comme ça leur convient, de laisser la feuille mourir jusqu'au bout et puis de la laisser tomber. Et puis il y en a, et moi c'est plutôt ce que j'ai tendance à dire, qui vont dire que déjà ça épuise la plante, elle ne sert à rien cette feuille, elle ne va pas refaire beaucoup de photosynthèse, à moins qu'il ne reste plus que deux feuilles et qu'on mise sur une nouvelle pousse bientôt. Mais dans ce cas-là, oui, là encore ça dépend, mais bon. Elle sert plus à rien, et en plus une feuille qui est abîmée et qui est fragile, du coup c'est une feuille qui a tendance à attirer les nuisibles. Donc si on peut s'épargner ce problème là il vaut mieux le faire. On a aussi parfois à la sortie de l'hiver un problème d'étiolement des plantes. Certaines plantes ont poussé soit sans feuilles, parce qu'elles sont allées chercher en fait la lumière, soit avec des toutes petites feuilles. Je pense à des plantes, par exemple, grimpantes ou qu'on fait cascader, nous, à la maison. Et là, ça vaut le coup de couper. Non seulement ça va, non seulement vous allez aider à la ramification, et en plus, c'est des plantes qui ne vont pas regrandir durant le printemps. Et ça vous permet de repartir sur des bonnes bases. Les prochaines, elles, seront plus grandes, il y aura plus de lumière. Vous avez aussi certaines feuilles qui ont perdu des variegations, par exemple, à cause du manque de lumière. Même pas forcément des plantes variegata, juste des plantes, là je pense à mon pothos néon qui n'est pas du tout néon durant l'hiver, qui est plutôt vert fluo l'hiver, et alors qu'il devrait être jaune néon tout le temps. Et ben, alors moi j'aime bien, parce que j'aime bien voir la différence des saisons passées sur son feuillage. Mais si on veut garder une plante bien, voilà, par exemple, bien néon, et ben on coupe les feuilles vertes qui sont poussées durant l'hiver. Et comme ça, voilà, on repart sur des bonnes bases. Au printemps, elles vont, les nouvelles seront bien, bien fluo.
Oui, il me semble que même dans ton livre, tu expliques que typiquement, bah, le pothos, moi, ce que je fais, je les coupe souvent, effectivement, de temps en temps, l'hiver, ça pousse en liane, sans feuilles ou avec des toutes petites feuilles. Et tu expliques aussi comment les bouturer, comment étoffer, en fait, son plant. On peut très bien aussi étoffer un pot qui est voilà, un peu tristoun.
Exactement. C'est vrai que les plantes qu'on fait cascader, ce sont des plantes, ben, je parle du pothos, par exemple, mais qui, dans la nature, ont tendance à grimper. D'ailleurs, dans la nature, elles ont des feuilles énormes. Enfin, vraiment, nous, on les adapte un peu à notre intérieur. Et alors, pour le coup, elles ne nous en veulent pas trop. Donc, ça va, on en profite. Mais c'est vrai que oui, c'est des plantes qui ont tendance à se dégarnir, notamment à la base, et qui, du coup, sont parfois un petit peu moins jolies. Et oui, on peut se couper et bouturer. Et puis, une fois que les racines sont apparues, replacer à la surface du pot pour les refournir. Non seulement, voilà, c'est hyper intéressant, on peut faire ça avec des enfants, c'est super sympa à voir. On peut se créer aussi des nouvelles plantes, bien sûr, hein, mais si on aime sa plante et qu'on veut la refournir, c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment une plante hyper ludique, en fait. On peut lui donner la forme qu'on veut, on peut la faire grandir comme on veut. Et alors, ce petit contrôle sur la nature, finalement, qu'on n'a plus du tout depuis des décennies maintenant, c'est un peu intéressant. Et je trouve ça un petit peu thérapeutique.
Dernière petite question un petit peu technique, on va parler fertilisation, parce que autant on a souvent conscience au potager qu'il faut fertiliser ses plantes, apporter de l'engrais, on sait à peu près qu'est-ce qu'il faut apporter comme type de nutriments, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne fertilisent pas du tout les plantes vertes. Est-ce que toi tu le recommandes, quand et avec quoi, surtout quand on essaie d'utiliser des choses évidemment un petit peu plus saines pour nous et pour l'environnement et pour la plante aussi évidemment?
Enfin, c'est vrai que moi, je fertilise quasiment toute l'année les plantes qui sont en pousse active quand une plante continue de pousser l'hiver, parce que ben, voilà, on est dans un microclimat, il fait chaud à la maison. Pour le peu que vous utilisez beaucoup votre humidificateur l'hiver, peut-être que certaines souffrent moins de l'humidité, de la sécheresse que celles qui sont proches du radiateur. Du coup, j'arrête rarement les engrais liquides l'hiver. Un engrais liquide, alors quel qu'il soit, hein, vous en avez plein maintenant à base d'origine végétale qui sont vendues dans le commerce. Alors, il faut vérifier ce qu'il y a dedans. Mais en fait, la réglementation est de plus en plus stricte là-dessus. Et c'est pas plus mal, parce que c'est des plantes d'intérieur. Même si on les mange pas, c'est quand même plus intéressant. Et du coup, voilà, l'engrais liquide me permet vraiment d'adapter, une fois que j'ai arrosé ma plante, rajouter dans l'eau d'arrosage pendant l'hiver. Au printemps, si vous avez peu de temps et vous avez des grandes plantes, vous pouvez acheter tout ce qui est granules ou bâtonnets. Donc, vous placez ça dans les pots des plantes et là, vous êtes tranquille. En fait, à chaque arrosage, ça va diffuser un petit peu des nutriments. Si vous venez de rempoter votre plante, vous n'êtes pas obligé d'apporter l'engrais directement, parce que si le terreau est neuf, il y a déjà dedans de l'engrais, donc l'engrais NPK, hein, l'azote, le phosphate. J'oublie à chaque fois ce que c'est. Phosphore et potassium, pardon. Du coup, voilà, vous avez, voilà, somme toute, des ingrédients assez classiques pour la plupart. Après, j'ai plein d'abonnés qui utilisent du marc de café, du lombricompost qu'ils font à la maison. Le lombricompost a bien dilué dans l'eau d'arrosage. Hein. Je voulais le redire parce que j'ai des abonnés qui ont tué des plantes comme ça. ça peut cuire la plante. Et donc, à chaque fois, on arrose sa plante, on met un engrais, même liquide, sur une plante qui a une motte humide. J'en ai qui utilisent aussi des pots de banane. Ça, c'est alors le truc assez classique, parce que du coup, on va retrouver le potassium. Voilà, donc là encore, à diluer. Il faut aimer l'odeur, mais si on le fait régulièrement et qu'on utilise le contenu régulièrement, voilà, l'odeur n'est pas très forte. On fait juste attention si on a des moucherons, si on a des plantes susceptibles aux moucherons. Le marc de café et les pots de banane peuvent, on va dire, encourager le dépôt de larves sur la surface. C'est vraiment la seule chose, voilà, à laquelle je... Mais oui, bien donner de l'engrais à vos plantes, parce que voilà, elles sont... En fait, il n'y a pas de décomposition comme dans la nature, il n'y a pas de petits vers dans vos terreaux, alors très rarement. Et du coup, on n'a pas de nutriments voilà, organiques qui sont en train de se décomposer dans vos terreaux. Et du coup, le terreau, finalement, est assez... Alors, il n'est pas stérile, mais il est assez neutre, il ne se passe pas grand-chose. Alors que dans la nature, les plantes bénéficient de tout ce qui se passe dans la terre. Donc, c'est vraiment une chose à essayer de ne pas oublier si on veut que la plante soit heureuse. Et alors, une autre chose que je pourrais vous dire, vous avez certaines plantes qui sont assez gourmandes en nutriments. Je pense aux Monstera, par exemple. Alors, moi, elles, je leur donne de l'engrais pour plantes fleuries.
D'accord. Ah ouais. Ouais, ça peut être une astuce pour les grandes, celles qui sont très gourmandes, quoi. Est-ce que tu déplaces tes plantes? Parce que souvent, l'hiver, il faut parfois, évidemment en fonction de l'orientation de son habitation, mais déplacer un petit peu pour se rapprocher de la lumière qui est quand même plus basse. Est-ce que toi, tu les déplaces entre les saisons ou...
Alors, moi, non, mais parce que quand j'achète une plante, j'en parlais au début, je réfléchis à là où je vais la mettre avant de l'acheter. Et pas une fois que je l'ai ramené à la maison. Mais parfois, ça arrive, effectivement, on est... moi, je suis en nord-est. Du coup, toutes les plantes qui sont situées au nord, c'est des plantes qui peuvent survivre l'hiver sans problème au nord. Simplement, voilà, elles vont peut-être s'étioler, donc il va falloir que je coupe. Ou bien, elles vont peut-être un petit peu perdre de leur vigueur, et puis ça va reprendre au printemps, mais ça ne me dérange pas. Et puis, j'ai toute une fenêtre à l'est, du coup, avec le soleil le matin, et une façade plutôt éloignée. Mais j'ai des abonnés et je conseille de le faire effectivement en hiver. Parfois, la luminosité est vraiment réduite. Et du coup, on rapproche un petit peu des fenêtres. Alors, est-ce qu'il faut redéplacer au printemps? Alors là, il y a deux options. Soit on a besoin de cet espace et du coup, on peut les reculer un petit peu dans la pièce. C'est-à-dire que l'inclinaison face au soleil de la terre, donc au printemps, n'est pas la même qu'en hiver. Donc, le soleil va pénétrer un petit peu plus loin dans les pièces. Si on est au sud-ouest, ça vaut le coup de les redéplacer parce qu'il y a un risque de brûlure à ce moment-là. À moins qu'on ait fait une acclimatation spécifique avec certaines plantes, mais il y a un risque de brûlure. Et de toute façon, le soleil pénètre plus loin dans la pièce. Donc, autant se faire plaisir au niveau déco. On peut les remettre à des endroits qui nous convenaient bien, finalement, en termes de décoration. Mais oui, je le conseille pour certaines plantes. Ça vaut le coup suivant son orientation. Et comme je disais, si on est proche, on est en milieu urbain proche d'une façade, en hiver, il y a pas. Enfin, non seulement le soleil pénètre pas énormément, mais c'est surtout la luminosité du coup qui pénètre pas énormément.
Oui, bien sûr. Est-ce que tu en sors sur ton balcon? Du coup, évidemment, on n'aura pas le temps de parler de ton balcon, mais je vous invite encore une fois à aller voir ta chaîne, parce que tu fais plein d'autres choses sur ton balcon aussi. Est-ce que les plantes vertes, typiquement les cactus ou les succulentes, on peut les sortir plutôt à l'arrivée de l'été en extérieur? Les plantes vertes, on pourrait s'amuser à les sortir sur la terrasse?
Alors, moi, une fois les caladium arrivés dans la saison, ils passent une partie de l'été dehors. Parce que, bon, en général, j'en ai pas mal, du coup, j'ai quasiment plus de place, mais c'est vraiment très beau et ils se plaisent bien dehors. Même, j'avais déjà essayé en plein soleil et ça fonctionnait. Alors là aussi, il faut peut-être essayer de faire une adaptation. Mais, parce que oui, la question de l'exposition sur le balcon se pose aussi. Les plantes grasses aussi. Alors, si elles ont passé l'hiver à l'intérieur, il faut y aller progressivement, les mettre que la journée pendant un ou deux mois et puis après, on peut les laisser journée et hiver. J'en ai sur le balcon. Et après, y a un certain nombre de plantes vertes que certains abonnés sortent, par exemple, dans leur jardin pour profiter de la pluie. Et alors ça, pour l'arrosage, c'est vraiment génial. Malheureusement, je n'ai pas de jardin et mon balcon est vraiment tout mini, donc je n'ai pas la place de le faire. Mais on peut le faire si on réfléchit juste aux brûlures, donc pas en plein soleil. On peut faire cuire une monstera très facilement et vérifier la météo. Voilà. S'il pleut mais que ça transforme en grêle, c'est comme pour les fleurs du jardin, c'est un peu compliqué.
Ouais. Ok, super. Est-ce que tu aurais une recommandation de livre, de documentaire, de chaîne YouTube, je ne sais pas, de quelque chose que tu recommandes pour voilà, s'occuper bien de ces plantes vertes? En dehors de ton livre, évidemment, dont on va vous mettre les infos.
Bah déjà, le magazine vert, ça c'est sûr, c'est une superbe... Non, mais je suis obligée de le redire parce qu'il n'en existe pas 100 000 aussi intéressant disponible maintenant. Donc ça, c'est... Ça, j'aime. Et puis, il y a toujours une section sur les plantes vertes, pour le coup. Même si si vous parlez de plein de choses, il y a quand même toujours une section sur les plantes vertes. Il y a pas mal de livres que j'aime beaucoup qui sont malheureusement des titres en anglais et aussi des chaînes YouTube en anglais. Donc, si on n'est pas anglophone, parfois, c'est compliqué. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, et honnêtement, je trouve que ça vieillit pas beaucoup, c'est d'aller choper des livres en brocante, des vieux livres de jardinage, on apprend plein de choses. Alors parfois, c'est pas directement sur les plantes vertes, mais en l'occurrence, on apprend plein de choses sur les cycles, sur les expositions, sur Il y a un livre que j'adore qui s'appelle...
J'en ai vu un, je pense, dans une de tes chaînes. C'est pas une encyclopédie ou un...
Ah oui, j'ai une encyclopédie qui est... Ouais. Alors, une encyclopédie qui s'appelle 700 plantes d'intérieur et fleuries. Alors elle, il y a tout. C'est simple, il y a toutes les plantes d'intérieur. Alors, allez, c'est pas le plus beau livre du monde, mais honnêtement, quand on est passionné et qu'on... Voilà, franchement, il y a tout. Donc ça, c'est assez génial. Il y a une chaîne, alors là, vraiment, qui est juste... C'est un puissant fond d'information. C'est Homestead Brooklyn. Donc, c'est... La nana s'appelle Summer Rain Oaks. Donc, Summer, comme l'été en anglais. C'est une nana qui habite à Brooklyn et qui a une... Mais alors, elle est vraiment très, très connue. Donc, je pense que vos auditeurs, s'ils sont anglophones, doivent connaître. Et qui a transformé son appartement en jungle. Elle est vraiment passionnée. Elle a d'ailleurs publié un livre qui s'appelle « How to make a plant love you », donc « Comment faire pour que votre plante vous aime ». Et c'est passionné et passionnant.
Bah, super.
Voilà, j'ai pas d'autres mots.
On note. Un dernier petit conseil, notre habituel conseil pour voir la vie en vert.
Alors, se déculpabiliser. Vraiment, moi, c'est un truc, c'est un... Alors, je sais, ça paraît hors sujet, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand on commence une passion, quelle qu'elle soit, et alors là, notamment une passion avec les plantes, c'est du périssable, hein, donc ça peut mourir. Parfois, on se met beaucoup de pression. Comme plein de choses, hein, comme plein de domaines dans la vie, notamment les nanas, on est assez doués pour ça. Enfin, on nous apprend à faire ça assez rapidement et c'est quand même compliqué. Ouais, se déculpabiliser. Quand on commence à cultiver des plantes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parfois ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la main verte. Ça ne veut pas dire qu'on est nul. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer et faire des tests. Moi, je trouve que c'est une belle manière de se dire, voilà, de voir la vie en vert, parce que sinon on arrête. Et c'est super dommage, parce que le jardinage, c'est hyper thérapeutique, hyper sympa. Et c'est comme dans la vie, quand on fait une erreur, on apprend. Et voilà, on ne peut pas tout réussir du premier coup.
Ouais, complètement. Et puis comme tu dis, c'est périssable. Et puis c'est pas si simple que ça. Tout le monde a en tête qu'on n'a pas la main verte, parce qu'on ne sait pas faire. Mais ça reste très technique parfois, très scientifique aussi. On n'a pas tous les mêmes bases.
Oui, oui, tout à fait. Très tout bon à fait. Conseil. Et du coup, parfois, ça crée une barrière, finalement. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'avant, je trouvais que maintenant, ça va mieux, parce qu'on parle de plus en plus des plantes. Mais il y a quelques années, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on allait chez un fleuriste, on prenait une plante, on nous disait vous arrosez deux fois par semaine. On rentrait chez nous, on arrosait deux fois par semaine, alors qu'on est bien d'accord que c'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est pas aussi simple. C'est beaucoup plus simple. Simplement, on arrose quand elle a besoin, quand c'est sec. Mais ça change suivant les saisons. Et puis, on revenait deux semaines après, bah, elle est morte. Ah, bah, non, vous n'avez pas la main verte. Non, bah non, en fait, tu ne m'as pas expliqué qu'est-ce qu'il fallait que je fasse.
Complètement,
c'est tout. Et donc voilà, sans être horticulteur de métier ou d'avoir fait des études en voulant être botaniste, on peut quand même s'amuser, essayer des choses. Et il me semble que c'est des valeurs qu'il faut inculquer, notamment à ses enfants, si on en a, quoi. On peut le tenter, c'est pas grave, ça marche pas, ça marche pas.
Ouais, est-ce que ton fils a ses petites plantes vertes à lui ?
Alors, il n'a pas encore ses petites plantes vertes. Par contre, il adore ça. Et il passe avec son arrosoir un peu partout. Alors, il est vide, l'arrosoir, hein, parce que j'ai du parquet. Mais il s'y intéresse et je pense que ça va venir bientôt.
Mais merci beaucoup à toi, Marion. On vous met de toute façon toutes tes infos, ta chaîne, etc. On vous conseille d'y aller en ce moment, mais même de rechercher. Il y a une barre de recherche dans YouTube où il y a déjà beaucoup de choses. Quoi.
YouTube est un moteur de recherche,
vraiment,
exactement.
Même si voilà, le potager ou le balcon vous intéresse, tu as beaucoup de contenu sur ça aussi. Donc, on vous recommande chaudement. Et évidemment, ton livre aussi qui vient juste de sortir. On vous mettra aussi les infos.
Oui.
Bah, à bientôt, Marion.
Et bah, j'espère. À très bientôt.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
Vous l'aurez compris, le printemps, c'est le moment de chouchouter vos plantes vertes. Dès que les beaux jours reviennent, on augmente petit à petit la fréquence de l'arrosage. Il y a souvent deux équipes ici, ceux qui oublient et ceux qui ont la main lourde. Un petit conseil pour les deux, instaurez une routine. Arrosez par exemple tous les dimanches vos plantes. Petit à petit, vous verrez si certaines plantes ont besoin d'un autre arrosage dans la semaine ou à l'inverse, si la terre est encore humide le dimanche suivant. Dans tous les cas, arrosez généreusement et supprimez l'eau qui stagne encore dans la coupelle une heure après. Vous pouvez arroser par le bas aussi, notamment vos petits pots. Il vous suffit de les installer dans un bac avec quelques centimètres d'eau pendant une heure environ. L'eau va remonter par capillarité, vos plantes seront arrosées quand le dessus du terreau est complètement humide. Peu importe votre méthode d'arrosage, il est judicieux d'y ajouter un peu d'engrais organique, acheté dans le commerce ou fabriqué à la maison. Si besoin, on a un super tuto dans le numéro 9. N'oubliez pas aussi de faire un peu de ménage de printemps, en passant un chiffon légèrement humide sur les feuilles de vos plantes pour enlever la poussière et faciliter ainsi la photosynthèse. Et le printemps, c'est aussi le moment de rempoter les plantes qui sont à l'étroit. Pour le savoir, le plus simple est de regarder sous le pot pour voir si les racines sortent. Attention, chez certaines plantes, les racines tapissent le terreau à l'intérieur. Vous le verrez alors en sortant doucement le plant quand le terreau est très sec. Une plante dont les feuilles jaunies peut aussi être un signe de manque de place. Veillez alors à choisir un pot à peine plus grand, les plantes aiment rarement être installées dans un pot beaucoup plus grand d'un seul coup. Enfin, comme Marion vous l'indique, c'est la saison parfaite pour débuter et agrandir votre collection. Renseignez-vous sur la variété que vous souhaitez acquérir avant d'y aller, afin d'éviter de craquer sur une plante qui ne serait pas adaptée à votre intérieur. Le plus complexe avec une nouvelle plante est de trouver l'emplacement parfait. Je vous renvoie au numéro 8 du magazine où vous trouverez un article détaillé sur le sujet. Gardez à l'esprit que la plupart des plantes aiment une lumière douce, mais sur une longue période de la journée. Elles détestent aussi généralement les courants d'air. Et évitez de changer la place de votre plante tous les jours, elle a besoin de plusieurs semaines pour s'adapter, même si elle fait un peu la tête au début. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter une nouvelle plante pour agrandir votre collection. Le printemps, c'est aussi la bonne période pour le bouturage. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié et je vous laisse à votre jungle. La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt.